Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez OPSIT, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, non pas deux, mais bien trois historiens, puisque nous accueillons trois enseignants-chercheurs de l'École Normale Supérieure de Paris et membres de l'IHMC. Tout d'abord, nous accueillons Valérie Tess, qui est professeure des universités en histoire médiévale à l'ENS de Paris, spécialiste des pratiques de gouvernement et de la scripturalité au Moyen-Âge, avec pour objet d'enquête essentiel mais non exclusif, l'institution pontificale entre les XIe et XIVe siècles. Les travaux de Valérie Tess s'ancrent notamment dans le Midi de la France, avec pour cœur essentiel Avignon et le comtat venaissin, mais comprennent également un cadre spatial plus large, puisque plusieurs de ses publications concernent l'histoire sociale des communautés de l'Europe méditerranéenne, en France et en Italie. Raoul Markowitz est quant à lui maître de conférences en histoire moderne et spécialiste des mobilités et circulations de personnes, mais également de textes, des objets et de produits culturels à l'échelle transnationale au cours d'un long XVIIIe siècle. Raoul Markowitz pratique une histoire connectée qui s'intéresse de près aux circulations culturelles à l'œuvre à l'intérieur de l'Europe, mais qui comporte aussi l'étude minutieuse des relations de différentes natures qui se tissent entre Europe et Asie à l'époque moderne. Et enfin, Stéphane Van Damme est professeur des universités en histoire moderne, spécialiste de l'histoire des sciences et des savoirs à l'époque moderne. Ses recherches procèdent à la fois de l'histoire environnementale et de l'histoire urbaine, puisqu'il étudie précisément les modalités de développement des savoirs au prisme de leurs manifestations spatiales et des sociabilités qui les structurent. Stéphane Van Damme a ainsi travaillé sur Paris, mais aussi sur Londres et sur le déploiement de la philosophie, de l'archéologie urbaine, des pratiques d'écriture en ville. Comme vous le voyez, nous avons affaire à des spécialités très différentes, tant en termes de bornes chronologiques qu'en termes d'ancrage spatial. Et précisément, ce que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui, c'est une entreprise éditoriale à laquelle tous trois ont pris part et dont la particularité est de mettre à contribution des chercheuses aux domaines d'expertise très divers. Je vous parle de la série de bandes dessinées intitulée « Histoire dessinée de la France ». Il s'agit d'une collection de bandes dessinées qui a été publiée chez La Découverte à partir de 2017 et dont le principe est à la fois simple et original. Associer un dessinateur, une dessinatrice, à un historien, une historienne, spécialiste, pour produire en tandem un volume consacré à une époque spécifique de l'histoire de la France. Les volumes se subdivisent en deux parties, la première est majoritaire d'ailleurs composée de planches de bandes dessinées, et la deuxième consiste en une sorte de petit cahier rédigé pour le coup, qui reprend et approfondit les thèmes abordés et qui donne aussi des références d'œuvres culturelles, littéraires, scientifiques ou même iconographiques permettant d'aller plus loin. Et le but de cette collection en 20 volumes est de proposer une mise à jour, à la fois créative et scientifiquement fiable, des connaissances sur l'histoire de France, loin du roman national et de ses appropriations parfois douteuses. Cette discussion sera suivie de notre habituelle carte blanche. Nous y échangerons avec Claire Zalk, directrice de recherche au CNRS, qui nous présentera le documentaire radiophonique qu'elle a réalisé pour France Culture et qui nous accompagne, suivant le titre de cette série en 4 épisodes, sur les lieux de Georges Perec. Mais avant d'en venir à cette histoire sur les ondes, place à l'histoire de la France en images. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être venus nous parler aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de rentrer dans les questions de fond que pose inévitablement une adaptation de l'histoire scientifique en BD, j'aurais une première curiosité qui porte sur la réalisation, sur le making-of des volumes eux-mêmes. Vous êtes avant toute chose des enseignants-chercheurs, donc des spécialistes de l'histoire scientifique, mais vous n'êtes pas des spécialistes en revanche de l'écriture des scénarios, de la composition de dialogues et de dessins. En somme, la bande dessinée n'est a priori pas votre métier. Or, le travail dont il est question ici est avant tout un travail d'élaboration de séquences imagées. Donc, comment concrètement avez-vous contribué à chacun des volumes que vous avez coécrits ? Est-ce que vous avez travaillé seulement, entre guillemets, à la rédaction ? Ou est-ce que vous avez aussi pris part à des choix de composition, de choix chromatiques, en accord avec les dessinateurs et les dessinatrices ? Vous voulez que je commence? Donc, effectivement, c'est pas notre métier. Alors, vous avez parlé de duo hein, pour la réalisation de ces volumes. Dans notre cas, c'était un trio, puisque nous étions deux scénaristes, Étienne Anheim et moi-même, avec la dessinatrice Sophie Guérive. On avait déjà, Étienne Anheim et moi, participé à une entreprise antérieure d'histoire en bande dessinée avec les éditions Fayard et Glénat, une entreprise plus classique. Et là, on n'était pas scénariste, on était conseiller historique seulement. Et on a pu à la fois admirer le savoir-faire des scénaristes de bande dessinée, parce qu'il y a des tas de choses pour capter le lecteur dont on n'a pas l'habitude quand on est historien, mais aussi ressentir la frustration. La frustration de ne pas pouvoir choisir les mots prononcés par les personnages, les scènes mises en avant avec des scénaristes de BD qui, par exemple, pour le Moyen-Âge, sont très friands de scènes guerrières. Et ce n'était pas forcément ce que nous, on voulait faire. Donc, ça a été aussi un bonheur de pouvoir être vraiment scénariste sur ces bandes dessinées-là. On a eu un dialogue permanent avec la dessinatrice aussi sur les planches. Mais là, c'est vraiment son travail à elle. Alors, on échangeait, elle nous présentait des planches, on lui donnait notre avis. Souvent, on était soufflés par ces bonnes idées. Notre seule intervention, je pense, sur le dessin, c'est sur les couleurs. Parce que dans son style, elle aime bien avoir des couleurs très vives, très franches. Ce qu'elle nous avait proposé au départ, c'était des couleurs un peu acides. Beaucoup d'orange, de vert pomme, parfois même limite un peu fluo, et on trouvait que ça correspondait pas bien en fait, à sa propre histoire. Donc on lui a suggéré d'utiliser la gamme chromatique des très riches heures du Duc de Berry, parce que du coup voilà, on restait dans des couleurs très franches, mais qui en même temps faisaient sens pour l'époque médiévale. Donc c'est un peu comme ça qu'on a travaillé.
Donc la gamme chromatique d'une source de l'époque.
Exactement. Enfin, un petit peu, ouais. Parce que c'est une époque très vaste, hein, oui. Donc de la fin de la période.
Et Stéphane Vandamme, Raoul Markovic, est-ce que vous avez partagé cette expérience ou...
Bah alors, nous aussi, on était un trio, puisque donc, la BD a été réalisée avec deux historiens, donc moi et Pauline Lemaigre-Gaffier, et donc un dessinateur, Simon Spreut. Il y avait un peu le même genre de partage des tâches que celui qu'a décrit Valérie Tess. Peut-être il y avait un mélange vraiment, en fait, au bout du compte, de toutes les fonctions. Au bout du compte, je distinguerais finalement pas entre scénariste. Nous-mêmes, nous avons proposé des idées de scénario et le dessinateur lui-même, en fait, est intervenu pour élaborer aussi le scénario en insistant sur la nécessité d'avoir un peu une histoire, une intrigue. Il y a un fil un peu, un petit suspense, disons, dans la BD. Et lui, il a beaucoup insisté là-dessus, voilà, pour que le lecteur puisse suivre un peu une vraie histoire, alors que nous avions pas forcément mis l'accent là-dessus dès le départ. Voilà.
Oui, alors en ce qui nous concerne, avec Héloïse Chauchois, qui était une jeune dessinatrice, tout de suite on a eu aussi un rapport assez dialogique. On n'a pas trop. Alors, même si évidemment elle est complètement responsable de la partie plus bande dessinée, visuelle, hein, bien entendu. Mais dès le départ, on a travaillé ensemble à l'élaboration du synopsis. Et puis ensuite des dialogues. Elle a toujours adapté les dialogues, généralement, à ce qu'elle représentait. Et donc, on a travaillé vraiment ensemble. Je lui ai fourni des éléments visuels aussi pour essayer d'être au plus proche d'une tonalité. Parce que, évidemment, pour des dessinateurs qui ne sont pas historiens, le XVIIe siècle, c'est pareil que le XVIIIe siècle... XVIe siècle. Donc il y a un peu de confusion souvent. L'idée, c'était effectivement de dire, voilà, si on représente un château ou une ville, il faut donner des éléments très précis. Donc voilà, on a essayé de choisir des images. Elle a beaucoup travaillé aussi à partir d'une sorte de répertoire iconographique de peintures connues qu'elle a essayé de détourner, réemployer dans le cadre de ses dessins. À l'origine, le projet, c'était... Donc, on avait plusieurs récits possibles sur lesquels on était d'accord. Au départ, on voulait faire un western. Mm-hmm. Et ça n'a pas été possible, en fait. On avait en tête le film de Tavernier sur la princesse de Montpensier. Voilà. L'idée, c'était un peu de monter un peu le tragique du XVIIe siècle sous la forme d'un western. Ça n'a pas vraiment convaincu les éditeurs, parce qu'il y a une grosse direction artistique et historique avec Sylvain Venner. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend, en fait, quand on n'a jamais fait de bande dessinée, c'est que c'est vraiment un travail collectif, en fait. Enfin, peut-être qu'on y reviendra. Mais du coup, c'est vrai qu'on a eu aussi à convaincre les directeurs de la collection à chaque étape. Il y a vraiment eu un travail de lecture très, très précis. Et donc, le western, ça n'a pas marché. Et après, on a dit, bon, bah, peut-être le récit de voyage ou l'enquête. Voilà, c'était un peu les formules qu'on a essayé de croiser, en fait, dans la construction du récit.
Et finalement, c'est le mélange qui est ressorti à la fin.
Voilà. Alors, mais par exemple, pour le choix des couleurs, c'est vraiment Héloïse qui a choisi d'avoir une gamme chromatique, une couleur par chapitre différente. Donc, c'est un choix...
Donc, pour résumer, tout le monde a mis la main à la pâte, littéralement. Il n'y a pas eu de distribution de textes à destination ensuite des dessinateurs qui en faisaient absolument ce qu'ils voulaient.
Bah, on leur fournissait un texte, mais Sophie Guérif, par exemple, trouvait toujours que nos textes étaient trop longs dans un premier temps. Donc, il y avait un échange sur la base de ce premier texte pour faire quelque chose de beaucoup plus concis. À l'inverse, Sylvain Vanier, trouvait que c'était trop court. et donc, ouais, voilà, c'était une négociation permanente.
Et j'aimerais y revenir sur cette négociation, justement. Parce que sur la quatrième de couverture de chacun des volumes, et puis sur le site de La Découverte même, on affirme avec beaucoup de vigueur un certain projet éditorial. On le disait plus haut, c'est donc le projet qui consiste à dépoussiérer les fables et les mythes habituels du récit national français. Et donc, ce faisant, le but est aussi de s'opposer à certains fantasmes passéistes, je cite le site de La Découverte, qui jalonnent le débat public aujourd'hui. En tant qu'historienne et en tant qu'auteur, comment avez-vous justement négocié avec ce projet éditorial ? Est-ce que vous avez effectivement cherché à faire contrepoids à certaines appropriations en tant que personnalité qualifiée ? Ou est-ce que pour vous, l'important, finalement, c'était essentiellement de faire œuvre de divulgation scientifique sans vous préoccuper nécessairement de ce que cette divulgation permettrait d'atteindre dans un second temps ?
Dans notre cas, il s'agissait moins de dénoncer des fables, des mythes, que de montrer la complexité d'une période. Parce que dans l'esprit des éditeurs de la série, c'était le volume « Guerre de 100 ans ». Donc c'est la guerre qui allait être au centre du volume, éventuellement la construction aussi de l'État, ça c'était très clair dès le départ avec Sylvain Venner. Mais nous on voulait montrer que y avait d'autres choses dans cette période. D'abord que l'exceptionnelle mortalité du moment était lié essentiellement à la grande peste, sur fond de crise économique et sociale, avec une forte dimension climatique aussi de ces crises. On voulait montrer aussi que c'était un temps qui est souvent réduit aux âges sombres du Moyen-Âge, enfin, voilà, l'automne du Moyen-Âge, et qui en réalité est un moment de très nombreuses innovations dans tous les domaines, institutionnels, culturels. Là, il faut imaginer que les œuvres de Boccace, de Pétrarque sont écrites à ce moment-là, en plein pendant la Grande Peste. Donc voilà, on voulait montrer toute cette richesse de la période. Et alors, disons nos commanditaires, hein, les éditeurs et puis Sylvain Venner qui dirigeait l'ensemble de la série, tout en voulant être très audacieux des fois... n'étaient pas complètement convaincus par nos propositions. Quand on leur a dit qu'on voulait justement commencer, puisque le volume commençait à la fin du XIIIe siècle, pour prendre la suite du précédent, on voulait commencer par les dimensions d'histoire économique et sociale, parce que c'était pour nous vraiment la toile de fond majeure qui permettait de comprendre beaucoup de choses de cette période, ils nous ont dit « Non, non, mais c'est pas possible, on va directement perdre les lecteurs ». Donc il a fallu les convaincre. Ouais. et finalement, je crois que bah, ça marche plutôt bien. Enfin, ça sera peut-être aux collègues ou aux lecteurs de le dire. Mais voilà ce que je peux dire en première approche sur cette question.
Oui, alors pour nous, il y avait peut-être une image quand même assez stéréotypée du XVIIIe siècle qui peut exister via les films, via certains romans, etc. Donc on a voulu aller un peu à rebrousse-poil d'un XVIIIe siècle, un peu élitiste d'un XVIIIe siècle, voilà, des marquises, des duchesses, centré sur la cour notamment. Donc sans ignorer bien sûr ces phénomènes, on a voulu proposer plutôt une histoire sociale, un peu vue par le bas, avec des acteurs ordinaires de la vie économique et sociale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est focalisé sur l'exemple de ce commis voyageur, donc Jean-François Favarger, qui travaille pour la société typographique de Neuchâtel et qui donc sillonne la France pour proposer son catalogue de titres aux libraires des différentes villes et qui, donc, ce chemin faisant, rencontre toute une série d'individus, dont y compris des grandes figures des Lumières, hein, comme Voltaire ou Rousseau, mais voilà, ils ne sont pas non plus absolument au cœur du scénario, ils occupent une grande place, mais ce qui était pour nous au cœur de l'histoire qu'on voulait raconter, c'était une histoire sociale et culturelle dans laquelle nous-mêmes avons été formés, voilà, qui présente les Lumières, hein, comme un objet de commerce, hein, dans tous les sens du terme, donc au sens aussi économique, de l'échange des idées, mais aussi au sens des transactions économiques. Voilà, donc c'est ça qui a présidé au projet. Donc, sans que ça soit vraiment militant, mais disons que c'était naturel par rapport à la formation que nous avons eue. Et puis aussi de présenter une image d'un 18e siècle français un peu ouvert sur l'étranger, sur l'Europe, sur l'espace atlantique. Voilà, donc d'introduire un certain nombre de regards un peu décalés ou extérieurs sur la France.
Donc pas militant, mais réflexif quand même.
On va dire ça.
Stéphane Van Damme.
Alors moi, je ferai une réponse double. D'abord, une réponse sur le rôle de la bande dessinée aujourd'hui, parce que d'un point de vue plus général, c'est vrai que c'est pas une histoire par défaut, ou une histoire illustrée, comme ça a pu l'être dans la collection Larousse, histoire de la bande dessinée des années 70, qui était vraiment une histoire par le haut, en fait, où il fallait absolument... Alors, pour le XVIIe siècle, le volume qui portait le titre sur l'âge classique insistait beaucoup sur la figure de Richelieu, de Colbert, avec des exemples un peu... qui avait vraiment vieilli, quoi, autour de Jean Bart, Dunkerque, les corsaires. Bon, tout ça semblait quand même un peu poussiéreux. Et donc, c'est vrai que nous, on a voulu faire une histoire visuelle. Enfin, voilà, ça veut dire quoi, une histoire visuelle? Ça veut dire une histoire qui utilise à la fois les images. Les images, je pense aussi, disons que... faire parler. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des images et il n'y a pas du tout de texte. Oui. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans les autres aussi volumes. Et puis, l'usage de la fictionnalisation avec, effectivement, une discussion parfois âpre avec les éditeurs qui, au fond, pour moi, sont passés d'une commande qui était un peu côté... bande dessinée, qui était plutôt ancrée dans la bande dessinée, donc avec des codes de bande dessinée, à une collection qui, de volume en volume, est de plus en plus ce que j'appellerais un manuel graphique.
Oui.
Donc, en fait, on s'est retrouvé dans la position d'écrire un manuel, en fait, ou un essai historiographique, qui n'était pas exactement forcément la formule des premiers volumes, si vous regardez... Sur Pax Romana, enfin sur l'Antiquité, etc. Vraiment, le côté BD, parfois, est très, très, très présent au sens même humoristique du terme. Et donc, c'est juste pour répondre sur la question de l'histoire dessinée. Alors, c'est vrai que nous, comme mes collègues, on avait aussi un cahier des charges. Donc, nous, c'était l'absolutisme, voilà, qui est un peu le pôle autour duquel...
qu'il fallait traiter.
Voilà. Tous les débats historiographiques ont tourné depuis une trentaine d'années, aussi bien autour du rôle de l'État, culture de guerre. Et donc, on est reparti évidemment de cette matrice-là, en essayant, évidemment, comme l'a indiqué Raoul pour le XVIIIe siècle, aussi de l'étirer vers et l'ouvrir. Alors, il y a un chapitre sur la France coloniale, etc., des choses qui n'apparaissent pas forcément dans les manuels sur le XVIIe siècle, et aussi avec cette idée de décentrement, qui était vraiment, il n'y a pas de chapitre sur Versailles dans la bande dessinée. Versailles apparaît dans le dossier. Et pareil, le siècle des saints, on voulait pas, voilà, on voulait pas donner encore une fois l'image d'un XVIIe siècle religieux. Et donc ces éléments-là, bien sûr, sont traités, mais ils apparaissent dans le
fascicule.
Dans le dossier. Mmh. Donc il y avait comme ça un jeu un petit peu autour de priorité. Qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant? Notre idée, c'est quand même de revenir sur une histoire sociopolitique du XVIIe siècle. Et bon, on y reviendra autour d'un personnage ou d'un grand historien, Pierre Goubert.
Oui.
Voilà. Donc, sa proposition a été finalement peu entendue. Louis XIV a repris très vite le dessus dans l'historiographie. Et les 20 millions de Français, bon, bah, souvent, ils sont vraiment à l'arrière-plan. On voit bien que l'histoire sociale du XVIIe siècle, là, c'était peut-être aussi ce serait bien, je sais bien que ce n'est pas forcément les collègues qui lisent les BD, mais dire quand même, envoyer un message pour dire que peut-être que Louis XIV, on pourrait peut-être arrêter de publier chaque année des biographies de Louis XIV. Ça serait peut-être un exercice.
Mais j'allais y venir sur la leçon aux collègues, justement, par le biais du traitement que vous faites de l'historiographie, puisque dans chacun des trois tomes dont on discute aujourd'hui, l'historiographie est présente, soit de manière incarnée, donc on voit des historiens apparaître, soit à travers une sorte d'allégorie, donc la mort dans le cas de la bande dessinée coordonnée par Valérie Tess. Donc, dans tous les cas, que ce soit à travers ces personnages fictifs ou à travers des personnes importantes du monde académique, l'historiographie est là. Pourquoi c'était important, d'après vous, d'inviter ces personnages sur la scène? Et quel apport vous estimez que ça peut avoir pour les lecteurs, que ce soit justement le public des curieux et des étudiants ou le public des collègues?
Bah, c'est important vraiment pour nous, je pense, de montrer que l'histoire est construite, que l'histoire s'écrit et que ce sont des historiens et des historiennes qui l'écrivent, qu'elle ne sort pas toute armée comme ça de la cuisse de Jupiter. Et donc de montrer un peu les opérations historiographiques qui président à l'histoire telle qu'on peut la faire aujourd'hui, c'est important. Alors bien sûr, c'est pas toujours le plus amusant de mettre en scène des historiens ou des historiennes. On peut imaginer que pour le lecteur, ça puisse être un peu rébarbatif. Donc on a essayé de trouver des moyens de les transformer un peu en personnages charismatiques. Bon, certains le sont de toute façon quand on les connaît, donc ça ne posait pas problème. Donc nous, on a fait le choix de mettre en scène notamment deux historiens américains. Robert Darnton, donc c'était très important parce que le scénario de la BD est en partie adapté d'un de ses ouvrages, hein, donc un Tour de France littéraire sur le Tour de France donc de Jean-François Favarger. Donc pour nous, c'était un hommage, évidemment, et une sorte de citation aussi, oui, de lui donner cette présence dans la BD. Mais c'était aussi marquer l'influence qu'avaient pu avoir ces historiens américains, hein, sur l'histoire sociale et culturelle qui s'est développé dans les années 80-90. Donc l'autre historien américain qui fait une apparition, hein, c'est Steven Kaplan. Et puis c'était évidemment aussi une façon de ne pas faire de jaloux,
oui,
de montrer des historiens d'outre-Atlantique. Voilà, donc il y avait l'ensemble de ces facteurs.
Nous aussi, on a eu l'idée d'incarner en fait débat historiographique entre trois positions. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu simplifié, mais trois positions qui est celle d'Alexandre Dumas, donc une vision un peu héroïque du XVIIe siècle, qui est toujours là, bon, on le voit bien avec la trilogie Les Trois Mousquetaires au cinéma. Voilà, donc il y a une rencontre entre Alexandre Dumas et le vrai D'Artagnan, voilà, qui a une vision peut-être un peu plus réaliste, en fait, de ce qu'était la guerre au XVIIe siècle. On a Ernest Lavisse, pour qui Louis XIV, c'est l'incarnation de l'État. Voilà, donc c'est une vision très Troisième République qui va peut-être triompher dans les années 60, sorte de Louis XIV de Gaulle, hein, figure gaullienne. Ça, c'est quelque chose qui est aussi un récit qui est toujours présent, implicite, qui est toujours proposé, relancé, etc. Et puis donc, Pierre Goubert, qui nous permettait aussi d'introduire d'autres éléments comme la vie fragile. Voilà, la misère, la crise démographique, la crise des campagnes. Donc, il y a un petit clin d'œil au Gilet jaune, hein, puisque quand on a fabriqué la BD, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, ça nous permettait de là de partir aussi, permettre d'intégrer tous les apports de l'histoire environnementale, voilà, qui est une autre manière de réouvrir des dossiers classiques d'histoire rurale, d'histoire... des fresques physiques, voilà.
Alors nous, on a fait un choix un petit peu différent. On était dans les premiers volumes de la collection aussi, donc on avait moins de points de référence avec les volumes des autres collègues, mais ça faisait partie du cahier des charges d'origine de la série d'avoir une instance tenant un discours différent de celui des acteurs de l'histoire. Et donc on a choisi, comme vous l'avez dit, la mort, parce que les premiers collègues avaient choisi des historiens, et je trouve que dans certains volumes, ça marche vraiment très très bien, les volumes que ça arrivait après. Dans les premiers volumes, des fois, ça avait un côté un petit peu scolaire, donc on avait envie de se détacher de ça. L'intérêt de la figure de la mort, c'est que elle n'est pas une instance historienne. Elle connaît la suite de l'histoire, donc elle a un regard qui est le regard en fait de la mémoire. Elle raconte ses souvenirs, mais en la faisant agir aussi dans le monde contemporain, parce qu'elle est en partie dans le monde médiéval, en partie dans le monde contemporain, on montre la différence entre ce regard de la mémoire, parce qu'elle a des références culturelles, politiques, qui sont quand même des références de quelqu'un qui aurait connu le Moyen-Âge, tout en sachant ce qui se passe après. Et on fait voir l'écart avec ce qui serait la position d'un historien ou d'une historienne d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, elle-même, elle met en valeur des choses un petit peu... absurde ou critiquable de notre propre époque. Et ça nous rappelle aussi que quand on est historien ou historienne, il est important de ne pas juger les acteurs de l'histoire, parce que nous-mêmes, si un personnage médiéval venait dans notre époque, il pourrait avoir des tas de choses à en dire.
Mais vous venez de dire, Valérie Tess, qu'on ne peut pas juger. Et justement, moi, ça m'interpelle, parce que l'un des traits communs aux trois volumes dont il est question aujourd'hui, c'est justement la présence de traits d'humour, voire de moquerie adressés aux acteurs dont il est question. Et là, je pense à, par exemple, à Voltaire et à Rousseau qui s'embrouillent en plein milieu de la rue. Je pense aux soldats de la bataille de Crécy qui se grattent le nez avec flegme, bon, côté français, sans avoir vraiment l'intention d'en découdre. Et ça, c'est une coloration qu'on n'a pas le droit de donner en temps normal à l'analyse historienne. En tout cas, pas dans une contribution scientifique universitaire. Et est-ce que vous trouvez à cet égard que la bande dessinée vous a permis d'investir un nouveau registre de discussion sur le passé ? Et comment vous avez appréhendé cette liberté de ton par rapport à ce qu'on fait d'habitude ?
Pour l'humour, alors, il s'agit moins en fait de se moquer des acteurs historiques que de se moquer un peu de tout le monde, hein, parce qu'on se moque aussi beaucoup des acteurs du temps présent. Et l'humour sert moins en fait à se moquer qu'à obtenir aussi une forme de concision de la pensée. Les blagues permettent de faire passer des choses beaucoup plus vite qu'avec du texte, et le décalage entre ce qui est dans le texte et ce qui est dans l'image joue aussi un rôle pédagogique très fort. Donc voilà, nous, l'humour, on le voyait comme ça, comme un moyen vraiment de raccourcir le propos et de faire comprendre très vite au lecteur phénomènes historiques qui sont parfois complexes. Et alors après, avec des blagues qui, pour certaines, ont été écrites à l'avance par nous, qui ont été imaginées par la dessinatrice elle-même. Hein. Par exemple, les soldats, là, c'est vraiment de l'humour graphique, c'était pas écrit. En plus, on surenchérissait chacune et chacun sur les blagues des autres. Donc voilà, c'était ça en fait l'objectif. Et quand je parle de pédagogie, ça renvoie quand même au fait que vous disiez, on n'a pas le droit normalement dans un discours historique de faire des blagues. Pas dans une communication de colloque, pas dans un article ou un ouvrage scientifique, mais c'est vraiment le registre du cours. Si on veut captiver les étudiants quand on fait un cours d'amphi pendant 2 heures, voire des fois même 3 heures, il faut quand même faire des petites blagues de temps en temps, les pauvres. Donc ça permet aussi de faire passer auprès du lecteur quelque chose de l'activité d'historienne et d'historien qui est l'activité d'enseignement.
Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait cette dimension pédagogique de l'humour. Même si, en fait, il ne faudrait pas s'interdire d'utiliser l'humour aussi dans des communications savantes ou des articles. L'ironie est le trope de l'histoire, hein, comme certains disent. Donc, alors, nous, on a pour notre procédé favori, mais c'était l'anachronisme, le carambolage un peu des temps. En gros, qui est une grande manière de réfléchir, effectivement, par court-circuit, comme ça. Et donc, notamment, c'est beaucoup amusé à faire cette visite du Panthéon, aujourd'hui, de Voltaire et Rousseau, donc qui sont propulsés dans notre présent et qui s'étonnent, en fait, hein, des étrangetés, des bizarreries et de l'héritage des Lumières, peut-être un peu dévoyé, à leur avis. Voilà, qu'ils constatent au Panthéon. Voilà, donc c'est le genre de trait d'humour qui doit fonctionner et qui correspond aussi à l'historiographie d'aujourd'hui, qui réfléchit aux héritages du passé, aux réappropriations du passé. Donc il y a des échos aussi par rapport à une démarche scientifique de ce point de vue-là.
Alors nous, ce qui nous a intéressé, c'était de prendre le contre-pied de cette histoire de la France en bande dessinée des années 70, qui était vraiment marquée par un esprit de sérieux, un peu pesant. Voilà, c'était un peu la grande histoire de France, un peu monumentale, etc. Et donc, essayer justement toujours d'installer un écart, une prise de distance. Voilà. Pour moi, ce serait un peu le côté l'humour a un rôle aussi de distanciation, un peu presque brechtien. Tout d'un coup, on se dit « Ah, ah oui, c'est comme ça, etc. » Finalement, on réalise, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre le lecteur dans cette position, on réalise un peu l'étrangeté, en fait, de certaines pratiques, de certaines institutions d'Ancien Régime. Et donc, effectivement, l'anachronisme est utilisé et l'idée, c'était aussi, alors, donc, parce que nous, notre référence était un peu Gottlieb, Rubrica Braque, donc c'était un peu quand même, bon, une culture bande dessinée des années 70, où on n'hésitait pas, justement, à être dans la subversion, quoi. La subversion des récits nationaux. Voilà, ça nous a quand même beaucoup intéressé. C'est une écriture à plusieurs niveaux. Au fond, effectivement, on peut le lire comme un manuel, mais il y a plein de clins d'œil. Voilà. On multiplie les clins d'œil, donc ça veut dire que les spécialistes peuvent lire ça en y reconnaissant aussi certains éléments. On peut le prendre au premier degré, effectivement. Il y a de l'information. On peut, j'espère, trouver ça drôle. Alors là encore, malheureusement, pour avoir fait plusieurs présentations devant des publics plus jeunes, lycéens, collégiens, etc. Bon, cet humour, c'est quand même un humour de vieux, quand même, hein, il faut quand même le dire.
Pourquoi de vieux ?
Par rapport au volume.
Non, mais c'est-à-dire, en fait, bon, bah, c'est l'humour de notre génération. Et effectivement, c'est là qu'on voit qu'il y a des décalages avec peut-être un public plus jeune qui, forcément, ne comprend pas toujours ou ne partage pas toujours ces codes. Donc, c'est quand même une bande dessinée d'adultes, voilà, je dirais. C'est ça qui m'a frappé. C'est qu'à chaque fois, il y a cette question sur l'humour qu'on pose.
Mais ça peut quand se même, dire à plusieurs niveaux aussi. Enfin, nous, notre neveu, ça faisait beaucoup rire Charles de Valois disant « Mon père est allé... Philippe de Valois disant de son père « Mon père est allé d'échec en échec sans perdre son enthousiasme », qui est une phrase bien connue de Churchill. Et notre neveu de 8 ans, ça le faisait mourir de rire sans qu'il sache, évidemment, que c'était un clin d'œil à Churchill. Donc, il peut y avoir aussi, par l'humour, des lectures à plusieurs niveaux et on peut comprendre les blagues de manière différente au fil du temps.
J'aurais une toute dernière question à vous poser, puisqu'il nous reste 2 minutes top chrono. Est-ce qu'il y a dans les BD que vous avez coordonnées, une case ou une planche ou plusieurs planches qui vous ont marqué, surpris, déstabilisé, que vous n'auriez pas visualisé telles qu'elles se sont présentées au résultat final?
Alors c'est une question pas facile, hein, parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de trouvailles de notre dessinatrice qui nous ont épatées. Moi, la case que j'ai choisie, c'est la case qu'elle avait faite pour faire comprendre ce que ça représentait que le nombre de morts de la grande peste, qui équivaudrait à peu près aujourd'hui à minima, hein, 20 millions de personnes qui mourraient en France. Et pour faire comprendre ça, elle avait choisi de représenter un petit personnage tout seul dans le métro. Et il faut imaginer que ça a été fait avant l'épidémie de Covid. Et quand on a vu l'épidémie de Covid, moi, je me suis retrouvée par moments, quand on n'était pas confinée, toute seule comme ça, dans des wagons de RER, les moments où on avait le droit d'aller travailler. J'avais déjà trouvé que c'était une image frappante, le gars tout seul dans son métro, mais a posteriori, j'ai trouvé que c'était une trouvaille géniale parce qu'elle avait anticipé ce à quoi le monde ressemblerait frappé par une épidémie.
Alors, moi, c'est... Donc, j'en profite pour rendre hommage aussi au travail de notre dessinateur, Simon Spruett, qui nous a aussi beaucoup épatés tout au long du processus de création. Et donc, moi, la planche que j'ai choisie, c'est la description de la police des grains. Donc, ça peut paraître assez compliqué comme ça. Et donc, on avait fourni à Simon un laïus assez dense sur les travaux de Steven Kaplan, sur le fonctionnement traditionnel de la police des grains et les réformes qui sont menées dans les années 1760-70 pour libéraliser le commerce des grains. Donc, des notions assez complexes d'économie politique, etc. Et en une planche, donc, il a choisi de présenter la planche comme une sorte de carte à jouer. Et il y a deux faces. Il y a le mercantilisme, le libéralisme. Du côté du mercantilisme, le personnage du roi regarde à la loupe le marché. Et de l'autre côté, il y a la main invisible et le roi ferme les yeux. Et voilà, en une planche, comme ça, visuellement, je trouvais qu'il arrivait à expliquer, en fait, ce que nous, il nous avait fallu trois ou quatre pages assez denses pour expliquer. Donc, il y avait cette immédiateté du dessin qui m'a beaucoup frappé. Et voilà.
Stéphane Vandamme.
Oui, alors moi aussi, je voudrais rendre hommage à Louis Chauchois qui m'a vraiment impressionné, par rapport à ses autres BD. On voit qu'elle a été complètement inspirée et un bon exemple. Alors, il y a aussi la question de la... Il y a un chapitre sur la démographie, effectivement, où elle met en scène aussi les crises démographiques de la seconde moitié du XVIIe siècle. Mais je prendrais un autre exemple tiré du chapitre sur la France coloniale, où vraiment, là, on a vraiment une... je crois que c'est un chapitre qui est vraiment très réussi pour moi parce que il est fidèle à cet esprit cinématographique qui nous a. On pourrait dire c'est un animé, quoi. Voilà. Et alors il y a un exemple où elle met en scène Alexandre Dumas qui raconte les aventures du baron de La Hontan qui est parti à la découverte de la mer de l'Ouest, remontant les sources du Mississippi et faisant halte. Parmi les Amérindiens, et elle montre en fait, alors c'est peut-être difficile à décrire, mais d'un côté on le voit sur une barque sur l'eau, le reflet de l'eau en fait, c'est le récit de La Hontan. Et donc ces militaires, c'est ce récit du premier contact. Et je trouve que c'est très poétique en fait comme image, et à plusieurs reprises. Alors évidemment, il y a la dimension humoristique, etc., mais il y a aussi cette dimension un peu poétique, littéraire en fait, visuelle qu'elle a réussi à incarner.
Bah, écoutez, merci infiniment pour toutes ces réponses et pour ces échanges passionnants.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et maintenant, carte blanche à Claire Zalk pour retracer les trajectoires familiales d'un acteur historique très particulier, Georges Perec. Et maintenant que nous avons parlé en plus de l'histoire par image, il est temps peut-être de parler d'une autre forme de narration historique, une narration sous format radio. Bonjour Claire Zalk.
Bonjour.
Cette narration, j'imagine qu'elle est soumise à des exigences particulières quand on est sur les ondes. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ?
Ah, ça a été toute une expérience très nouvelle, notamment d'abord de rencontrer des gens, c'est-à-dire que de construire un discours et de construire une narration historienne par le dialogue. Et ça, j'ai trouvé que c'était très stimulant. Donc j'ai rencontré des gens de différentes disciplines autour de cette thématique des lieux de Georges Perec. D'autre part, de chercher des archives audio, donc de penser par le son. Et donc pour moi, c'était tout à fait nouveau de défricher les archivina et de trouver des morceaux, notamment de la voix de Georges Perec, mais aussi d'autres choses, comme des archives radio, des actualités, etc. Et puis la dernière chose, c'est la musique. Et moi, c'est un truc que j'adore, la musique, mais qui n'est pas du tout mis en valeur dans mon travail, évidemment. Et donc, de penser par le son, ça permettait de rendre compte d'une narration avec une empreinte sonore musicale, ce qui, pour moi, était très précieux et ça a été très intéressant de travailler comme ça.
Vous pensez par le son, mais vous pensez aussi par l'espace. Et l'espace, on a le sentiment, en écoutant le podcast, que vous l'appréhendez comme le lieu qui permet de penser l'absence des bâtiments détruits, l'absence des personnes qui, dans les années 30 et 40, sont parties sans revenir. Mais c'est aussi un lieu qui vous permet, justement, de penser l'analyse historique de manière ancrée. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à choisir les lieux de Georges Perec ?
Alors, c'est un peu compliqué de dire ça rapidement, mais comme historienne des migrations et des persécutions, je réfléchis aux manières dont les hommes et les femmes sont ramenés, assignés, attachés à des lieux. Mais j'essaye, puisque je travaille sur les migrations et les persécutions, de me situer hors de la perspective de l'enracinement. Précisément, Georges Perec, dont l'œuvre est habitée par une espèce d'interrogation sur les lieux, il tente de les épuiser, il interroge l'emploi du terme habité, il propose une réflexion sur les espèces d'espace. Il se lance dans ce projet complètement fou, d'écrire ces lieux tous les mois, etc. Je ne cessais de le rencontrer, en fait. Et donc, l'idée de la série, c'était de procéder de cette rencontre in situ. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler comme ça, un peu de manière désincarnée, précisément de s'ancrer ou de s'attacher à quatre lieux pour essayer de travailler les relations entre l'histoire et la littérature.
Et parmi ces lieux, on trouve notamment la ville de Loubartouf, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé et vous travaillez encore dans le cadre du projet de recherche Loubart World. Est-ce que vous avez le sentiment que Georges Perec vous a appris quelque chose sur Loubartouf ? Est-ce qu'il vous en dit quelque chose de particulier ou au contraire de semblable par rapport à ce que vous avez déjà lu ?
Alors c'est très différent. En fait, j'ai choisi de Loubartouf à cause de Georges Perec.
Très bien.
Donc c'est pas. En revanche, ce que cette expérience radiophonique m'a permis d'approcher, c'est ce moment des années 1980 dont on ne sait rien, où Perec va à Loubartouf et dit il ne reste rien. Et c'est peut-être cette phrase qui fait que j'ai choisi Loubartouf. Ça veut dire quoi pour un historien d'aller travailler sur quelque chose où il ne reste rien ? Et quand on travaille sur la Shoah, évidemment, c'est une question qui emprunte la démarche. Est-ce qu'on peut trouver des choses sur des lieux où il ne reste rien ? Or, précisément, d'abord, évidemment, depuis 5 ans qu'on travaille dessus, il reste plein de choses. Et puis, là, j'ai réussi à approcher le voyage de Perec à Loubartouf, dont on ne connaît rien. Et ça, c'était vraiment génial, quoi, de retrouver des photos de lui à Loubartouf, d'interroger les gens avec lesquels il était en Pologne. Il a été donc une semaine en plein milieu des grèves de Solidarność, et de retracer en fait cette Pologne du début des années 1980 avec Perec. Ça, c'était un truc assez génial qui était dans le podcast. Donc ça m'a permis, ce documentaire radiophonique m'a permis d'élucider un petit peu ce moment que je connaissais peu.
C'est vrai que Perec raconte beaucoup la manière dont il appréhende sa propre histoire. Et parmi les citations qui figurent dans votre podcast, il y en a une où Perec considère que son histoire personnelle n'est ni sèche ni objective. Vous, en tant qu'historienne qui, comme professionnelle, pratique un travail scientifique, donc en théorie objectif, est-ce que vous pensez que notre objectivité assèche nécessairement ce dont on parle ? Ou bien est-ce que ce genre de travail vous permet au contraire de retrouver les trajectoires, les émotions, l'agentivité des acteurs et donc la chair fraîche ?
Alors, quand vous parlez de chair fraîche, c'est drôle parce que, en exergue de ma thèse, il y avait une citation de Marc Bloch qui disait « Le bon historien ressemble à l'ogre de la légende, là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. » Donc, alors que ma thèse, elle est très objective, je crois, en tout cas, elle cherche l'objectivité, la chair fraîche était déjà là. Je crois que il serait vraiment... C'est à tort qu'on sépare la sensibilité de l'objectivité. Je ne pratique pas une histoire des sensibilités qui se démarque d'une histoire de l'objectivité, ça c'est sûr. Mais il me semble que toute objective qu'elle puisse prétendre être, l'histoire peut être sensible. Sensible aux personnes sur lesquelles elle travaille, sensible aux lieux qu'elle essaye de décrire. Et donc, de mon côté, Pérec nous offre en fait cette possibilité d'être dans l'objectivité et la sensibilité en même temps. Et l'expérience radiophonique, pour moi, c'était aussi de travailler ça. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'un côté l'agentivité et de l'autre côté l'insensibilité. C'est-à-dire que l'agentivité, elle peut être insensible et l'objectivité ou le déterminisme peut être très sensible. Je pense que c'est... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Si, parfaitement. Merci beaucoup, Claire Zelk, pour cette micro-apologie de l'histoire en carte blanche. Alors, nous vous rappelons que les bandes dessinées dont nous avons parlé aujourd'hui sont accessibles chez les meilleurs libraires indépendants et en bibliothèque, et que l'émission de Claire Zelk se trouve en ligne, en accès libre, sur le site de France Culture. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Obsite. Cet épisode vous était présenté par Costanza Lugnani, doctorante en histoire moderne à l'IHMC, produit par Jérôme Jacobet et Francesco Zambonin, et réalisé par Quentin Sancier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.